RCF.
Cette semaine, c'est une émission sur la recherche de la vérité, vaste sujet et pourtant sujet de notre quotidien. Il suffit juste de vous souvenir à quand remonte votre dernière discussion et à la manière dont vous avez argumenté. Ou bien à quel débat vous avez assisté récemment et sur quelles idées il s'est appuyé. Et c'est donc avec un auteur qui s'est penché sur la controverse que nous allons passer cette émission. Père Édouard d'Ivry, bonjour.
Bonjour Madeleine et bonjour aux auditeurs.
Alors, vous êtes dominicain de la province de Toulouse. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Le bienfait des controverses doctrinales dans l'Église ». C'est paru aux éditions Artege. Un livre qui revient sur la recherche de la vérité, celle des hommes et celle de l'Église. Et forcément, ce sujet, c'est aussi la façon dont le monde contemporain reçoit cette quête que mène l'Église. Alors, Père Édouard d'Ivry, il suffit de suivre l'actualité pour voir que les polémiques occupent les médias, les polémiques, mais pas forcément les débats construits et encore moins les disputes, comme on a pu les connaître dans les universités au Moyen-Âge sur des sujets de théologie. Alors, à partir de quoi s'organisent les discussions et pourquoi surtout il est si important de rechercher la vérité? Bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais savoir quel regard vous portez justement sur les débats d'aujourd'hui, sur les débats parlementaires, les débats médiatiques. Est-ce que d'après vous, on cherche à parvenir à la vérité? Et puis après, quelle vérité est-ce qu'on court?
Oui, c'est une vaste question et c'est vrai que ça n'est pas toujours facile de discerner. Discerner, c'est le rôle des chrétiens dans une société, arriver à faire la part dans le fond des choses de ce qui est grossi d'une manière artificielle, qui ne correspond pas au réel, dans le fond. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Les anciens disaient que c'était une adéquation entre le réel et ce que l'on pouvait dire de ce réel. Et si l'adéquation n'est pas là, eh bien, on est dans l'idéologie, on est dans le mirage, on est dans le mythe, on est dans différentes voies sans issue, si vous voulez, dans lesquelles on s'égare, finalement. Et au Moyen-Âge que vous citiez, il y a eu cet effort à partir d'Abélard, c'est un contemporain de Saint Bernard au XIIe siècle, qui a commencé à se dire, dans le fond, les pères de l'Église, qui ont eu lieu surtout dans les premiers siècles, surtout dans l'âge d'or, 4e, 5e siècle, ne disent pas toujours la même chose. Comment trancher? Dans le fond, c'est l'autorité d'un père, et un père, ça a toujours raison, d'une certaine manière, mais certains, vraiment, disent des choses contraires, voire même contradictoires. Et donc, il a inventé un système que l'on appelait « sic et non », c'est-à-dire « oui et non ». On garde ça encore, d'ailleurs, dans le langage courant, « sic et non ». Et on a organisé donc les propositions de ceux qui s'opposaient. Et puis, on a essayé de chercher par la raison croyante comment aller au-delà, surplomber le différent pour arriver à la vérité. Et celui qui a été vraiment le maître d'œuvre dans ce procédé, un peu plus tard, ça a été saint Thomas d'Aquin, le docteur commun, le docteur angélique, comme on l'appelle, qui propose toujours, comme dans la somme de théologie, une série de questions. Et à chaque question, il donne donc des arguments opposés à la réponse qu'il va proposer. Puis il donne un argument d'autorité, puis développe cette proposition qui est la sienne à partir d'un certain nombre de raisons théologiques, si vous voulez, raisons croyantes. La foi est intelligente et l'intelligence croit. Et du coup, cela donne tout un travail à réaliser du côté de l'intelligence. Et puis, il répond aux questions une à une. Donc, c'est très, très organisé.
C'est très scientifique,
très structuré. Ouais. Et c'est vrai que parfois, dans les mentalités qui veulent aller plus vite que ce que l'intelligence peut faire, on aime bien arriver tout de suite à la réponse et qu'on trouve ça un peu fastidieux, si vous voulez. Mais en fait, c'est un bon exercice. Cela donne des occasions de connaître des distinctions, de savoir les poser, de savoir construire, dans le fond, une argumentation théologique.
Alors justement, est-ce que vous diriez que l'Église, aujourd'hui, c'est un lieu où existe encore la controverse, ou bien est-ce que c'est le lieu du silence et que peut-être le tabou occupe une place pour certains sujets?
Alors, je ne pense pas que le courage des évêques avec, par exemple, la fameuse, le fameux rapport Sauvé de la Chiasse ou la Chiasse, donne bien la volonté de l'Église de clarifier les choses. Donc il n'y a pas, je crois, de sujet tabou. Hein. On aime bien aller jusqu'au cœur des problèmes, mais c'est vrai que parfois, il peut y avoir, pendant pas mal d'années, à cause de l'ambiance, à cause des non-dits, de la société tout entière, très souvent, des omertas, si vous voulez. On ne parle pas de tels problèmes, comme on n'a pas parlé du racisme pendant longtemps, ou comme on n'a pas parlé de différentes choses, si vous voulez. C'était un peu enfoui, comme ce qu'on appelle une structure de péché. Quelqu'un me disait, mais les nains, pendant toute l'histoire de siècles, on ne s'est pas tellement intéressé aux nains, ils étaient seulement objets dans les cirques, on se moquait d'eux, etc. Et puis il y a des prises de conscience qui sont faites, et tout à coup on se focalise, et c'est vrai qu'à ce moment-là, l'aspect médiatique, l'aspect de la vox populi est important, parce qu'elle fait surgir du flot du quotidien un certain nombre de faits, un certain nombre de questions. Il y a une opinion populaire qui se met en place et en faisant surgir des questions, cela aide à étoffer une argumentation. Et bien sûr, il ne faut pas en rester, je dirais, au niveau purement affectif. Le grand danger, c'est d'en rester au niveau affectif et de ne plus voir l'ordre des vérités.
Alors justement, c'est ça votre parti pris, c'est de dire que c'est parce que le monde interroge l'Église qu'elle-même arrive aussi à un certain discernement sur ses propres idées. C'est parce que le monde la bouscule que l'Église, elle aussi,
oui,
avance.
Oui, il y a comme une sorte d'aide réciproque, c'est-à-dire le monde avec cette vox populi, cette voix vraiment du peuple, peut tout à coup, effectivement, aider à une purification dans les structures de l'Église, dans les hommes en tout cas qui participent à ces structures de l'Église. Et réciproquement, l'Église doit être sans cesse prophète par rapport au monde.
Alors la question que vous posez,
oui,
c'est celle de la porosité, c'est-à-dire jusqu'où,
oui,
le monde aide l'Église à résoudre ses propres interrogations. Est-ce qu'il est possible que les deux se croisent? C'est souhaitable, mais jusqu'où?
Alors c'est difficile de voir où est exactement le curseur, puisque le curseur va dépendre un peu de chaque problématique.
Alors on y reviendra,
voilà,
dans la suite,
exactement,
un par un.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois, il y a, comme dit le Concile Vatican II, une hiérarchie des vérités. Et c'est cette hiérarchie des vérités qu'il faut retrouver à chaque fois pour, dans le fond, dirimer, c'est-à-dire résoudre, hein, les difficultés rencontrées dans ce qui, tout à coup, arrive d'événements quotidiens ou répétitifs. Et le cas du rapport Sauvé, c'était quelque chose d'assez systémique, comme il disait, où il y avait beaucoup de non-dits, beaucoup de mêmes procédés qui étaient faits, où on déplaçait quelqu'un qui avait fait du mal et on ne prenait pas le taureau par les cornes, si vous voulez, pour finalement cadrer le mal et le résoudre. Et d'une certaine manière, la société peut être une aide tout à coup pour conscientiser non pas seulement un lieu, mais des dizaines de lieux qui ont réagi un peu pareil. À ce moment-là, la problématique devient plus nationale, voire même universelle, et permet à ce moment-là de prendre les décisions, je dirais, collectives. Les conciles ont toujours été des assemblées d'abord régionales, puis universelles, pour résoudre des problématiques qui, tout d'un coup, apparaissaient comme étant quelque chose sur lequel il fallait s'attabler pour se rencontrer, donner des arguments et finalement tenter de les résoudre sous l'action du Saint-Esprit. Mais c'est un acte de foi à chaque fois. L'Église, c'est ça. La grande différence avec la société civile, c'est que nous faisons un acte de foi que le Saint-Esprit est à l'œuvre et que c'est lui que nous cherchons à rejoindre, à être rejoint plus exactement par lui, puisqu'il est l'Esprit de vérité.
Alors ça, pour le grand public, c'est pas toujours facile à comprendre, pour les médias non plus. Et d'ailleurs, pour revenir sur cette question de la hiérarchie des vérités, c'est vrai qu'on ne fait pas toujours la différence, nous journalistes, entre la déclaration du pape, l'homélie d'un prêtre, la lettre d'un évêque, les documents d'un concile, l'exhortation apostolique, une encyclique. on a le sentiment que chacun se vaut et qu'à partir du moment où c'est l'Église institution qui l'a dit, au fond, c'est à prendre pour vérité et dicté par
et
l'Église.
C'est ça. Et c'est là où on voit, si vous voulez, dans la société civile, c'est quand un ministre prend une position qui ne correspond pas à celle du Premier ministre ou à celle du Président de la République, ben, parfois, il y a un hiatus et on est obligé de démissionner quelqu'un, si vous voulez. C'est pas rare dans la Ve République que des hommes qui étaient pleins de générosité, mais qui sont allés trop loin, qui ont marché un peu sur les plates-bandes qui leur étaient interdites. Et du coup, il a fallu leur demander de retourner à la case départ. Alors dans l'Église, ça ne se passe pas comme ça. Parce que dans l'Église, nous ne sommes pas une sorte de hiérarchie pyramidale où il y aurait le pape en haut avec les évêques qui seraient comme, si vous voulez, les préfets qui agiraient au nom du pape et puis le peuple en bas qui aurait à obéir avec une gendarmerie qui serait là pour les garder. Chaque Église est autonome et a en elle déjà tout ce qu'il faut pour être l'Église universelle. C'est assez extraordinaire. Chaque évêque a l'autorité du Christ là où il est. Mais il l'a non pas seulement par lui-même, mais en communion avec les autres et en communion avec Pierre. Cum Petro, sous Petro, avec Pierre et sous Pierre. Donc il a un devoir de se mettre en communion avec Pierre et avec ses frères pour porter une parole de Dieu.
Voilà, l'Église n'est pas une institution comme les autres. C'est ce que vous expliquez dans votre ouvrage « Le bienfait des controverses doctrinales dans l'Église ». Merci Père Édouard d'Ivry, merci beaucoup.
Merci.